Salut, c'est Superplage et vous écoutez choc.ca.
Heureux lundi à tous de vous écouter dans les airs à choc.ca. On est le lundi 23 janvier, ici Florence, et je suis en compagnie de Raja et Olivia. Comment ça va les filles?
Salut Florence, salut Olivia, ça va super et vous?
Oui, super bien, contente de cette semaine théâtrale qu'on vous propose.
Oui, alors cette semaine, vraiment, tu l'as bien dit, c'est la place au théâtre. On est allé voir la pièce Maurice au théâtre aujourd'hui et également la pièce Nichimus à l'Espace Go. On va pouvoir vous en parler plus en détail, mais avant, j'aimerais aborder un petit sujet avec vous. En fait, comme on en a parlé la semaine passée, on revient tout juste de vacances. Puis, en fin janvier, on se remet dedans, les salles réouvrent et offrent plein de spectacles aux téléspectateurs, que ce soit à Montréal ou ailleurs au Québec. Par contre, j'ai lu un article super intéressant cette semaine dans Le Devoir de Stéphane Bayard-Jon qui disait justement que les fêtes se sont encore déroulées sans grandes offres culturelles, mais la rentrée de janvier va en remettre jusqu'à sa soif et tout d'un coup, souvent à la même heure tardive, la routine habituelle. Alors, qu'est-ce qui cloche avec le calendrier des arts et de la culture? Alors vraiment, il lançait un peu cet article-là pour voir est-ce qu'on devrait remettre en question le calendrier, comment de culturel, parce que pendant le temps des fêtes, la réalité, c'est qu'on a plus de temps pour aller voir justement des spectacles. Et que quand on reprend le rythme de la vie, je sais pas pour vous, mais moi, ma session...
On a beaucoup moins de temps.
Oui, c'est ça, ouais. On a beaucoup moins de temps, puis c'est là, à ce moment-là, que tout réouvre, puis que là, c'est fou le nombre de spectacles qui a lieu. Fait qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait repenser le calendrier culturel pendant les fêtes?
Oui, mais en même temps, je travaille pas dans le secteur culturel, je travaille pas dans le quartier des spectacles. Peut-être que pour eux, profiter du temps des fêtes, ne pas avoir à travailler, c'est une bonne chose. Cela dit, il y a plein de théâtres indépendants qui pourraient rouler un genre de programmation, tu sais, un jour... t'es au théâtre d'aujourd'hui, demain t'es à l'Espace Go, théâtre libre. Donc, c'est vrai, avec une bonne genre une coordination entre les théâtres, on pourrait avoir une programmation assez complète pendant la période des fêtes sans avoir à programmer un janvier très chargé. Et
aussi sans avoir à comme priver les artistes et tout de leurs vacances. Donc, moi, je dirais que c'est une question de mieux organiser la répartition. Et je trouve que c'est une très bonne question parce que c'est vrai que là, il y a énormément d'offres. Et quand on a énormément de temps, il y a beaucoup moins d'offres. Mmh. Donc moi, je dirais que oui, ça serait plus intéressant. Et je dirais même que plus de personnes s'intéresseraient et assisteraient parce que là, les gens n'ont pas le temps. Et quand on est en temps des fêtes, le temps, il n'y a que ça. Et on cherche des activités, on improvise et tout. Et le fait que ça soit ouvert, ça encouragerait d'un côté la culture et d'un autre les gens seraient plus intéressés, quoi.
Oui, vraiment. Puis après ça, vous avez raison de penser... il faut penser aux gens qui travaillent dans le milieu culturel. Oui. Après ça, pendant les fêtes, ce qui était ouvert, c'était les musées et les cinémas. Mm-hmm. C'est sûr que les pièces de théâtre, les salles de spectacle, je veux dire, le but, c'est d'aller rejoindre un plus large public. Fait que les fêtes, ce serait un super moment. Mais après ça, ça dépend de plein de logistique aussi. Puis c'est donc, ouais. L'idée de... Moi, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit, là, tu sais, la coordination un peu, de peut-être faire des semaines thématiques, au sens où, tu sais, comme le Tavern Tour qui a lieu en février, dans les prochaines semaines, on va vous en parler justement, mais eux, c'est à plein de salles de spectacle. Pendant la même semaine, il y a des événements, puis les gens peuvent se promener. Puis, tu sais, ça pourrait être en combinaison avec tout ce qui a été fait avec la Place des Arts, là, tu sais, ils ont comme créé jusqu'en mars un chemin lumineux de...
Ah oui, le marché de Noël.
Ouais.
Oui,
ouais, la luminothérapie, mais tu sais, ça pourrait être accompagné, justement, ce serait un beau tremplin, je crois, peut-être, pour des spectacles, parce que là, on revient en janvier, puis...
Et justement, peut-être c'est basé sur un ancien modèle des affaires où le monde était moins laïque, qui fêtait Noël à l'église, à la messe de Noël, et oui. qui observait peut-être d'une manière plus...
Oui, mais c'est intéressant, ça, c'est vrai, parce que je pense que les fêtes ont changé à travers le temps, notre conception de célébrer les fêtes. Puis ça change aussi de façon très culturelle aussi, je veux dire.
D'autant plus qu'il y a des personnes, il y a énormément de personnes qui sont des étudiants internationaux, des immigrés, et donc qui ne fêtent pas forcément les fêtes. Et donc, en ce temps qui est vraiment libre, je connais beaucoup, beaucoup de gens, moi par exemple, qui, en temps des fêtes, vous m'aurez proposé un spectacle, j'y serais, je m'y serais rendue et ça m'aurait intéressé davantage à la culture, au spectacle.
Je pense que les gens ont le goût d'aller voir des spectacles, des différentes performances pendant la période des fêtes. C'est en ça que ça résume.
Vraiment. Et puis, sur ce, on va se laisser sur une petite musique. On vous laisse cette réflexion-là. Peut-être que le calendrier des fêtes changera, peut-être qu'il ne changera pas, mais on va vous parler des différentes pièces de théâtre qui ont lieu cette semaine et dans les semaines à venir à Montréal. On se laisse sur Dollar Sign de Emma Beko.
Yes, that's a fun fact. They've never spent lives. Keep it on hard drives. Wet naps and pack sacks. Ziplocs and big bucks. Big bills for big trucks. It's deluxe. Luxury gold. Fit in a mold. Stereotype that we all love to hype. Cinnamon swirl. What a nice treat. I live for the chaos. Sticky and sweet, eh. Let go my hand. Let go my hand. Let go my hand, let go my hand. Let go my hand, let go my hand. Let go my hand, let go my hand. Grocery, laundry, bills, taxes, spending all my mail money. I don't wanna steal pennies, never will you call me Bonnie. Hobbies lately feel funny, when you know you're late with money. I don't want time to outrun me, I just wanna spend my life. Fruition, intuition, I've been there and it's bitching. I've climbed some highest mountains, metaphorically speaking. Holy grail of the riches, a whale amongst these fishes. I know damn well that I should never tell around these stitches. They hold you down and lift you up, it makes no sense, don't give a fuck. They put a prices in that nice, it'd take a life some thousand bucks. Time is of the essence, perfume me with its fragrance. I like it better when it's free, I like me better when I'm free. Let go my hand, let go my hand. 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 Grocery, laundry, bills, taxes, spending all my meal money. I don't wanna steal pennies, never will you call me Bonnie. Hobbies make me feel funny, when you know you're late with money. I don't want time to outrun me, I just wanna spend my life. Grocery, laundry, bills, taxes, spending all my meal money. I don't wanna steal pennies, never will you call me Bonnie. Hobbies lately feel funny, when you know you're late with money. I don't want time to outrun me, I just wanna spend my life.
C'était Dollar Sign de Emma Beko. Maintenant, on va vous parler de la pièce que Olivia est allée voir. Olivia, veux-tu nous en parler un peu plus?
Oui. Mardi dernier, je suis allée voir le spectacle Maurice au Théâtre d'aujourd'hui dans la salle Jean-Claude Germain. C'est un one-man show ou one-woman show interprété entièrement par Anne-Marie Olivier, avec la participation d'un membre de l'auditoire. Ce spectacle raconte l'histoire de Maurice Danseuse. C'est un ancien économiste Donc, je vous amène tout d'abord dans l'ambiance de la salle de spectacle. Ah, puis un petit détail, Maurice a eu un AVC à 33 ans et ça a complètement bouleversé sa vie. Il n'est plus capable de s'exprimer, de parler correctement. Donc, quand on entre dans la salle de spectacle, on est comme envahi par l'odeur de l'encens et aussi d'un orange. Et c'est parce que c'est intégré dans la performance, dans les 5 premières minutes. C'est complètement silencieux.
Et de l'odeur de l'orange, tu dis? Oui. Ça sentait l'orange?
Oui, la fumée et de l'orange. Et Maurice entre sur scène et commence à peler son orange.
C'est orange. Okay.
Et avec beaucoup de difficultés parce qu'il n'a qu'une main. À utiliser. L'autre reste dans un genre de sling, si vous pouvez m'aider à
combler.
Oui, un genre de plâtre. Donc, la pièce, tout d'abord, avant que les rideaux soient ouverts, ça a commencé avec un enregistrement de l'entrevue avec Anne-Marie Olivier, l'interprète, et Maurice, danseuse, le vrai Maurice, danseuse. Et c'est ça, je vais vous expliquer en quelques parties de quoi ça a l'air la pièce de théâtre, mais j'essaie de ne pas trop approfondir le sujet parce que ça se peut qu'on reçoit Anne-Marie Olivier dans les studios de Choc cette semaine ou la semaine d'après.
Ouh.
Oui.
Super intéressant.
Donc, Maurice est honnête, peut-être trop. Il est incapable de filtrer ses émotions après son attaque cérébrale, qu'il a laissé s'engager dans un monde de sentiments, au lieu d'un monde rationnel et calculé dans lequel il s'engageait en tant qu'économiste pour le gouvernement de René Lévesque. Accident vasculaire cérébral à 33 ans, biblique, comme il le raconte. Et en parlant de ça, cette pièce est remplie de jurons religieux, donc de toutes sortes de mots qu'on ne dit pas à la radio. Elle nous fait également entrer dans l'univers profondément nationaliste, optimiste et politique de Maurice Danseuse, un Québécois qui croit en une vision de la souveraineté de cette province et qui n'hésite pas à demander son avis à son invité du public, à son interlocuteur.
OK, donc il brise souvent le quatrième mur au sens où il s'adresse à vous.
Donc, ouais, je vous explique. C'est, comme j'ai dit, c'est un one-man show, mais il n'arrive pas à trouver ses mots. Donc, il va demander souvent au public de lui aider à compléter son spectacle. Mais son spectacle ne se réalisera pas sans l'aide d'un membre de l'auditoire qu'il choisit dans les premières minutes. Il demande une volontaire. Qui se lance sur scène avec lui. Donc, dans ce cas-ci, c'était une femme qui s'appelle Lucie, c'est une travailleuse sociale qui travaille avec les Autochtones au Québec, donc qui a un encadrement très spécifique et qui est très à l'écoute. En fait, c'était la personne parfaite pour aller sur scène, oui, pour jouer ce rôle. En même temps, c'était choisi de mode aléatoire. C'était pas prévu de ce que je sais. C'est un caractère très provocateur. Surtout ses discours nationalistes ont suscité beaucoup de réactions du public, souvent positives. Et c'était encouragé. C'était un peu de la théâtre participative. Il nous raconte aussi son enfance troublée, de son histoire de victimisation dans l'Église catholique, de sa relation avec son père absent, son frère qui l'a échappé depuis son accident, de sa sœur qui s'occupe de lui, même si elle voulait l'institutionnaliser, lui mettre dans un hôpital, dans un CHSLD par exemple. Et aussi de sa relation avec sa sœur qui a beaucoup développé depuis son accident. Il est devenu handicapé. Il était un père monoparental.
Monoparental.
Et c'est quelque chose à traverser pour lui. après son AVC. L'amour n'a jamais été facile pour lui. Il n'était pas facile après son accident. Il nous raconte comme quoi il voulait sortir avec une autre aphasique, parce qu'il est aphasique, c'est un peu ça le mot qui revient. Florence, t'as...
Mais à travers toute sa vie qu'il raconte, j'ai peut-être manqué le bout, mais est-ce que c'est véritablement lui ou c'est un personnage?
Donc, c'est Anne-Marie Olivier qui se déguise. Et qui joue Maurice. Oh, oui, ça c'est l'important, et puis merci de me faire la précision. C'est Anne-Marie Olivier qui se déguise, qui porte une perruque, j'imagine que c'est une perruque, à moins que c'est comme une coupe de cheveux vraiment, vraiment bien faite, pour reproduire les cheveux gris. Incarner, incarner Maurice. Et oui, Raja?
En fait, ma question c'est... Et donc, tout ça, c'est quoi le rôle exactement de la personne volontaire du public? Si c'est,
Personne qui discute avec Maurice de sa vie. Quelqu'un qui est volontaire pour lui aider à communiquer son histoire, parce que le caractère que qu'Anne-Marie Olivier interprète, c'est un personnage aphasique qui a beaucoup de difficultés à trouver ses mots, qui trace parfois les chiffres sur la table, qui demande un aide du public, qui parle avec genre des verbes non conjugués, qui utilise des mots approximatifs, qui n'a pas vraiment un langage très développé. Puis c'est parce que ce personnage, puis je tiens à le dire, c'est un travailleur acharné, brillant, brillant économiste et fonctionnaire, s'est levé un matin et s'est effondré. Donc, il n'a jamais été capable de retrouver l'intelligence, le charisme et la facilité d'expression qu'il a eu avant. Et c'est ça, il parle comme quelqu'un qui s'est effondré dans sa cuisine un jour, qui s'est jamais remis à 100%, en fait.
Je repose encore la même question, je suis désolée. Mais est-ce que la personne volontaire du public, elle travaille avec la comédienne qui est déguisée en la personne, quoi?
Oui, exactement. Elle parle avec Maurice. Donc, ouais, c'est ça. Donc, l'interprète, elle s'absente de la performance. Elle joue un caractère comme n'importe quel interprète, mais c'est comme si c'était vraiment Maurice dans la salle avec nous. Comme je vous ai dit, en entrant dans la salle, on entend l'enregistrement de l'entrevue entre Anne-Marie Olivier et Maurice. Et en quittant la salle après, revenu dans le bar du théâtre d'aujourd'hui, on voit sur un grand écran l'entrevue entre les deux. Puis c'est... Honnêtement, il y a comme plein de spectateurs qui sont devant l'écran, bouche bée. Regardez comment c'était bien fait, son interprétation, comment c'était crédible.
Le voir après la pièce, ça devait être frappant. Oui. Au sens où tu viens de t'attacher, de te familiariser avec un personnage qui n'est pas un personnage, en fait. Puis
tu le vois réellement.
Tu le suis, c'est ça. Puis je veux dire, après une pièce de théâtre, souvent, on s'attache aux personnages. On s'attache aux gens qu'on voit sur scène. On développe des... Tu sais, on apprend à avoir des liens, oui.
Oui. Et surtout que dans l'histoire de l'art, on apprend que le théâtre, c'est comme une des meilleures formes de propagande. Et pas dans un mauvais sens. Et la propagande, ça peut nous faire réagir, ça peut nous communiquer plein de choses importantes, de réalité sociale. Et c'est vraiment le cas dans cette pièce, Maurice. Par exemple, il vit sur le 20 ou 25 000 qu'on lui offre de l'aide sociale. Il nous raconte comment c'était difficile de passer à un salaire d'économiste à quelqu'un qui vit sur l'aide sociale. Et ben après, on lui voit dans sa petite cuisine avec, avec sa bière et avec son, son toast, avec la moutarde qu'il utilise comme, comme gâteau. Vous pouvez voir ça en, en réel, genre en représentation sur le site web du théâtre aujourd'hui.
Oui, c'est disponible encore.
Oui, et... ben, c'est ça. Donc, je fais un petit callback aux détails. Donc, l'idéation et l'adaptation, c'est Anne-Marie Olivier et la mise en scène, Olivier Artaud, avec Anne-Marie Olivier et Michel Motard au théâtre d'aujourd'hui jusqu'au 4 février avec 5 supplémentaires déjà programmés. Donc, si vous voulez voir Maurice... dans toute sa splendeur, vous pouvez aller sur le site web du théâtre d'aujourd'hui puis procurer un billet.
OK, ouais, ça a l'air très, très intéressant.
Je vais aller regarder ça, je pense. Mais merci beaucoup pour ça. C'est, moi, ça me, on dirait que ça me plonge dans cet univers-là. Puis je pense que c'est, tu l'as bien nommé, c'est une des forces du théâtre, de se plonger dans des univers qu'on est moins familiers. Puis c'est de l'art vivant, donc c'est encore plus...
Et tu l'envoies en live, et c'est encore plus touchant. Et ça serait très, très intéressant de pouvoir avoir comme une entrevue avec la comédienne, parce que le travail derrière pour être parfaite, pour reprendre parfaitement le personnage de Maurice, et c'est vraiment très, très intéressant.
Eh bien, c'est sûr, je serais vraiment je serais ravie de, d'avoir Anne-Marie Olivier en studio. J'ai beaucoup apprécié son sa performance, puis comment elle réinvente le langage travers ce personnage de Maurice. J'ai parlé à un collègue après avoir vu le spectacle, puis j'en ai parlé de, comme quoi je recevrais peut-être l'interprète en studio. Et elle m'a demandé, mais est-ce que tu vas recevoir Anne-Marie Olivier ou Maurice? Et ben, j'ai répondu Anne-Marie Olivier, et je crois que ce serait le cas, mais il faudrait peut-être vérifier avec la relationniste.
Oh mon Dieu! Alors, soyez aux aguets, peut-être qu'on va recevoir Maurice ou Anne-Marie. Sur ce, on se laisse sur Tempête de l'effet.
En rafale, en sec impératif, en vague de dégoût, désir non désiré. Autre, tu te gaves du festin, tu tends tes bras, n'écoute pas les miens. J'aurais aimé pouvoir te le dire, j'aurais aimé pouvoir te... Dans mon pouls du silence abrasif, l'hiver tel une maison revient. J'ai la peau dérobée, délabrée, écoute bien, mes os hurlent en amplitude. C'est par mes yeux, c'est par mes yeux, c'est par mes yeux. Je t'aurais tué, je t'aurais tué.
Vous écoutez Dans les airs, c'était Tempête de l'effet. Et maintenant, Florence va nous parler d'un show Nietzsche-miss qu'elle a vu à l'Espace Go de Montréal.
Oui, je suis allée hier, donc c'est tout frais dans ma mémoire. Nietzsche-miss, qui veut dire mon ou ma chérie en cri. C'était, je suis chanceuse, je suis allée voir la supplémentaire hier. Ça jouait du 19 au 21 janvier, donc une courte fenêtre. Mais attention, c'est pas parce que le spectacle est terminé que ça veut rien dire, cette chronique-là, parce qu'il y a plein de découvertes que j'ai faites à travers cette œuvre. On présente des artistes, c'est que des femmes, artistes indépendantes, interprètes autochtones, qui nous parlent de l'amour et d'érotisme. C'est super intéressant, puis... je vais vous amener avec moi dans cet univers-là. C'est un spectacle qui est de direction artistique et de mise en scène par Émilie Monet. Émilie Monet, activiste et artiste multidisciplinaire. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un événement festif réunissant les paroles intergénérationnelles de femmes inspirantes et inspirées autour du thème de l'amour et de l'érotisme. Intergénérationnel, vraiment, on avait des femmes de tous les âges. Puis, l'objectif, je pense que c'était vraiment de repenser l'amour en termes de décolonisation. Donc, souvent, on a une vision de ce que c'est l'amour, mais ça peut vraiment changer en fonction de différentes cultures. Puis que même au Québec, il y a une certaine colonisation qui s'est faite de l'amour et ces femmes-là l'expliquent et les décortiquent à leur façon. Donc, c'est vraiment un processus de création collaborative où la scène était transformée en un espace de parole. Donc, contrairement à une pièce où est-ce qu'il y a plusieurs décors qui changent, là, au contraire, on était dans une ambiance. Puis, Émilie souhaite donc réunir plusieurs voix différentes pour témoigner d'une autre façon d'être en relation avec l'autre, tout en célébrant différentes conceptions de l'amour dans toutes ses formes. En élargissant les frontières, on apprend à connaître cette vision-là. La conceptrice vidéo, c'était Caroline Monet, artiste multidisciplinaire aussi. Et donc, c'est ça, on arrive dans la salle de spectacle et on a un décor, une ambiance très feutrée. Donc, il y a des chaises, des divans de velours rouge, rouge, résonance avec amour. Un tapis recouvre le sol de la scène. Des rectangles de tissu sont suspendus, des rectangles rouges de tissu sont suspendus dans les airs en forme de triangle. Il y a quelques fourrures sur les divans, des bouquets de roses, des bougies, vraiment une ambiance tamisée. Et selon le mot de Émilie Monet sur le décor, en fait, c'est que sous la tente, au milieu des fourrures et des couvertures, j'avais envie de réunir des femmes qui m'inspirent, de les entendre tour à tour parler d'amour, chacune offrant son tisan au feu, comme le dit si bien Joséphine Bacon, qui était justement présente. Donc, on débute. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on avait ce décor-là, mais on avait aussi une ambiance sonore. On avait deux musiciennes, un duo formé de Anne Aknin, une artiste multidisciplinaire cri, basée à Montréal, et d'ailleurs la gagnante du Félix de l'artiste autochtone de l'année lors de l'édition de 2019 des prix de la Fondation Socan. On avait aussi, on était accompagnée de Franny Holder, une compositrice, chanteuse et multi-instrumentiste de Montréal, qui est membre des groupes pop, hip-hop, Random Recipe et Electrofolk Dear Criminals. L'artiste polyvalente a débuté sa carrière en 2017. Donc, les deux ensemble nous offrent vraiment une expérience immersive avec une force tranquille et nous communiquent leur sensibilité en nous amenant dans un univers. Donc, on commence et puis les lumières s'éteignent et ils commencent à jouer une musique. Des projets, il y a une musique assez, je sais pas, entraînante, vraiment sur un pop électro super intéressant. Et là, il y a des projections sur un rideau blanc et on voit apparaître le nom des autrices et une à une, elles sortent du rideau. Donc là, par exemple, on a...
C'est très dynamique.
Oui, c'est ouais. Vraiment dynamique. C'était comme un peu, justement, un espace de prise de parole, mais comme un... pas un one-man show, mais...
Il est bien mis en scène. C'est pas juste... Oui, c'est un ça. Espace de prise de parole. Exact. Où les gens...
J'ai réfléchi, ouais. Mais il y avait un naturel puis une sensibilité comme dans un open mic que tu verrais. Sauf que là, c'était un open mic qui était réfléchi. Chacune avait leur tour de prise de parole, leur rythme à elles. Chacune l'interprétait différemment, donc ce qui était intéressant. Et elles s'écoutaient l'une d'entre elles. Il y en a une qui se levait, prenait la parole. Puis pendant ce temps-là, les autres buvaient même une tasse de thé. Donc c'était très convivial. Et sur une ambiance aussi très féminine. Et je le dis parce que ça m'a beaucoup touchée de voir que c'était uniquement la parole de femme qui avait cet espace-là. Ça aidait à comprendre leur vision des choses. Puis je sais pas, je trouvais qu'il y avait une solidarité puis une unisson qui les tenait ensemble.
Et dans quelle langue, la performance ou les performances, est-ce que ça... Ça alternait entre...
Oui, ben en fait, dépendamment, parce que c'est ça, je vais vous expliquer, artiste par artiste, en fait, ce qu'ils ont amené. Mais on avait des artistes, par exemple, une artiste congolaise. Il y avait aussi des prises de parole. Des fois, on entendait des mots Wendat, Atikamek, Inou, Inuk. Donc, il y avait vraiment une diversité, anglais même. Mais ça se passait majoritairement en français. Je dirais. Donc, premièrement, pour vous mettre dans l'ambiance de la pièce, je vais vous laisser sur une chanson de Anak Nin. C'est Love Alone. Et puis, vous allez comprendre un peu le thème.
L'ambiance.
Donc, on commence avec sa musique. Puis après ça, je vous explique le reste du spectacle. We'll be right back. Alors, j'espère que cette chanson vous a mis un peu dans le thème de l'amour, comme le titre de la chanson « Love Alone ». Alors, on commence le spectacle. Je vous amène avec moi là-dedans. La première prise de parole a été par Virginia Pessé-Mapo Bordelot. C'est une autrice-interprète née en Jamaïque au nord-ouest du Québec. C'est une artiste encore multidisciplinaire et you. Multidisciplinaire parce qu'elle fait des œuvres sur les réflexions, sur les liens polysémiques entre les spiritualités autochtones et l'occupation humaine du territoire. C'est des tableaux de factures surréalistes qui sont exposés depuis 40 ans au Québec, au Canada, en Europe, au Mexique. Mais elle a publié aussi 3 romans, 3 recueils de poésie, 1 livre de contes, 1 essai, 1 livre de jeunesse et 1 livre d'art. Vraiment une femme complète. Elle commence sa prise de parole et c'est une prise de parole qui introduit bien le Nichimus parce qu'elle elle utilise beaucoup de mots en cri. Puis elle parle justement de son désir en tant que femme, de son érotisme, qu'elle compare avec le territoire. J'ai trouvé que c'est une prise de parole fruitée parce qu'elle utilise même des fois des énumérations de baies, de... elle fait aussi une espèce de conte avec un chêne, comment elle-même pourrait être un chêne. J'ai vraiment une belle poésie, une belle plume. Et donc, plus sa prise de parole continue, au fil, avance, on voit sur le rideau derrière blanc qu'il y a une projection de gens qui s'embrassent sur le fond, qui accompagnera le reste du spectacle dans différentes façons, qui va tout le temps être là. Donc, au début, ça te frappe. Puis tu portes vraiment attention, mais au fil du spectacle, tu deviens habitué, tu sais. Donc, c'est vraiment comme ça accompagne le décor. Puis donc, ça, c'était la première prise de parole. Ensuite, Virginia, elle est suivie de Catherine Boivin. Catherine Boivin, qui est une jeune artiste atikamekw, qui s'exprime par la vidéo, photographie, sculpture, peinture, performance. Elle est une blogueuse et créatrice de contenu sur la plateforme TikTok, si jamais vous voulez aller voir ce qu'elle fait, Catherine Boivin, sous le pseudonyme de Otehima, O-T-E-H-I-M-A. Elle y aborde plusieurs sujets en lien avec sa culture, la vie en tant qu'autochtone, et ce, dans le but de sensibiliser les Québécois, Québécoises. Donc, à travers son travail artistique multidisciplinaire, elle s'intéresse à la relation au corps, à la matière et aux matériaux. Puis c'est intéressant parce que, justement, dans sa prise de parole, elle nous parle un peu de l'éducation sexuelle. Puis comment est-ce qu'en tant qu'enfant, puis en tant que jeune femme, elle a été amenée à avoir cette éducation sexuelle-là, les lacunes qu'il y avait aussi, puis comment elle a toujours eu de la misère avec ses mots. De nommer, par exemple, des parties du corps pour elle, c'était... Elle dit tout le temps avec un peu de gêne, tu sais. Donc, elle dit, regardez, on va faire l'exercice ensemble, mot par mot. Je vais vous dire les mots du corps de femme dans ma langue, puis on va les décortiquer puis les explorer ensemble. Donc, c'était super, une approche hyper personnelle, encore là, comme tu dis avec Maurice, il y avait un contact avec... une présence avec le public. Donc, elle nous parle des yeux, le désir du regard, les lèvres, langue, cou, aussi tout ce qui est, tu sais, les seins, au sens où il y avait une vision vraiment différente de celle qui est amenée, qui était colonisée.
Et donc, c'était un peu un appel et réponse. Vous répondiez dans l'auditoire avec le mot, que ce soit bien ou mal prononcé.
Oui, exact. C'est vrai, il y avait vraiment un appel et réponse en atikamekw. Puis, elle nous parlait aussi du ventre, les critères de beauté, de la vie en forêt, qui était différente aussi, que cette, l'espèce de grossophobie occidentale n'existait pas. Le nombril. Puis que même elle, ce qui était intéressant, c'est qu'elle ne connaissait pas le mot pour le clitoris. Puis elle disait l'importance de connaître justement ces mots-là. Et puis la musique arrête et elle continue son récit, mais avec l'apport de la colonisation. Donc comment est-ce que l'arrivée des robes noires, quand elle parle des robes noires, ben c'est les religieux, c'est les catholiques qui sont venus sur le territoire, avaient changé en fait le rapport à la sexualité de son peuple. qu'à leur arrivée, il fallait se cacher, que le sexe était dégoûtant. Donc, même, elle finit sur ces mots-là, puis je pense que c'est un discours quand même proche d'elle, qui peut être avec son lot d'émotivité. Oui. Donc, elle finit avec une certaine émotion qui est très touchante. Donc, ça, c'était la deuxième prise de parole. Ensuite, troisième texte, Joséphine Bacon. Joséphine, si vous ne la connaissez pas, c'est une poète, réalisatrice, documentariste, parolière, traductrice, conteuse et enseignante d'Innu Aimun. C'est une Innu originaire de Pessamit. Joséphine, que j'ai eu la chance de rencontrer dans un projet étudiant la session dernière, c'est une femme super généreuse de son temps. Super sympathique, drôle. Je l'ai trouvée tellement drôle. Elle a un naturel, une simplicité. Elle a commencé, avant de lire sa poésie, en nous racontant un conte de tradition orale sur Carcajou. Puis Carcajou, qui était comme une espèce de spiritualité dans les contes innus, mm-hmm. une figure. Puis de la rencontre de Carcajou avec des femmes, c'est une histoire super imagée et drôle, où est-ce que pendant qu'elle le raconte, elle va même s'asseoir par terre pour montrer, puis vraiment illustrer. Donc il y avait vraiment ce côté attachant. Et puis après ça, elle reprend en parlant de l'amour, que l'amour est partout, en fait. Que ça peut être entre deux personnes, avec tes parents, tes amis. Mais elle parle de l'amour qu'elle a pour le Nutchimit, qui est le territoire de ses mm-hmm. ancêtres. Et que le Nutchimit, il est ni féminin, ni masculin. Puis qu'elle écrit pour pas l'oublier, en fait. Donc, c'est vraiment dans cette trame qu'elle nous amène. Puis elle finit sur des mots pour atteindre l'horizon. Pour atteindre l'horizon, pour elle, c'est une façon de retrouver l'amour. Donc, c'est super, encore une fois.
On remarque aussi, encore une fois, cette relation entre identité et amour. Et à quel point l'identité de chaque interprète joue un rôle majeur.
Transcende sur.
Exactement, dans ce qu'elles sont et donc comment elles définissent l'amour et comment elles le voient et comment elles l'ont vécu. Et donc là, je trouve qu'il y a une richesse à travers ces différents témoignages qui est assez intéressante et qui en dit long sur la culture. Si jamais tu ne connais pas telle ou telle culture, ben là au moins tu as mm-hmm. un discours qui va t'en rapprocher.
Vraiment. Et puis le quatrième texte était pris, c'était une parole de Angélique Wilkie. C'est une autrice, interprète, performeuse, chanteuse, pédagogue et dramaturge. Cette prise de parole, je pense que moi, c'est elle qui m'a le plus frappée parce qu'elle parlait... en fait, elle prenait la parole en anglais, puis deux phrases après qu'elle commence à prendre la parole, elle dit « Je vous parle dans la langue coloniale. » L'anglais, qui était la langue des maîtres de ses ancêtres, qui... Donc, on voit vraiment un héritage de l'esclavagisme qui était aux États-Unis puis en Amérique du Nord. Donc, justement, elle danse sur la musique, parce que tout le long, on n'oublie pas, on a eu le duo incroyable de Anakné et Franny. Et puis, donc, ils accompagnent les prises de parole à différents intervalles. Et on voit que c'est comme si la sexualité de ces ancêtres avait été mise en cage tout autant que leur personne. Et elle répète « We want our bodies back ». We want our bodies back. Et il y avait une certaine façon de blanchir sa sexualité, loin de sa sensualité. Donc, c'était très frappant. Et même, elle se déhanchait de façon à vraiment comme vouloir se libérer du blanchiment de sa sensualité, de vouloir découvrir la sienne. Donc, vraiment, Angélique Wilkie. Super, super performance. Cinquième texte, on arrive avec Isabelle Picard, originaire de Wendake. Isabelle Picard est spécialiste des Premières Nations. Donc, elle est ethnologue, chargée de cours, chroniqueuse, analyste, conférencière, consultante, formatrice et autrice. Donc, avec elle, on avait vraiment une approche un peu plus de conférence, mais en fait...
Pédagogique?
Oui, pédagogique, mais j'ai trouvé ça super formateur.
C'est comme refaire tes cours de...
oui, mais elle faisait, en fait, elle a commencé en parlant de ce que c'est qu'être femme pour elle, genre. De son désir à elle féminin. Donc, elle parle d'une aventure avec elle, mais elle l'entrecoupe comme dans un TED Talk un peu, là. Elle nous amène vraiment dans sa réflexion de chez elle, chez les Wendat, comment c'était que la femme était plus libre, qui avait le concept de conjointe temporaire. Vous irez faire vos recherches sur conjointe temporaire, c'est super intéressant. En fait, c'est que pendant la saison de la chasse, les hommes avaient le droit de partir avec une conjointe temporaire, puis c'était consentant avec la conjointe non temporaire, qui était femme, qui était souvent mère des enfants. Okay. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette conjointe qui était non temporaire, qui restait au village pendant les périodes de chasse, elle aussi, elle avait des conjoints.
OK. Puis, temporaire aussi.
Oui, c'est ça. Okay. Donc, tu sais, ne vous détrompez pas, ce n'était pas seulement l'homme. Il y avait une liberté accordée à la conjointe permanente chez les femmes Wendat. Et donc, c'était super intéressant, vraiment. Elle avait une voix super douce. Très, très, très doux, droit au cœur, aux enfants, aux décisions de liberté sexuelle. Puis elle finit par un chant, Wendat. Donc, une petite interlude musicale. On reprend ensuite le sixième texte. C'est par Sharon Fontaine Ishapato. C'est une jeune comédienne de UHAT. Et diplômée en arts visuels de cette île. Je ne sais pas si vous avez déjà pas entendu parler d'elle, mais elle a joué dans le film « Kwesipan » de Naomi Fontaine. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu...
Non, mais je vais peut-être faire une découverte.
Oui, mais en fait, c'est ça, « Kwesipan » qui a paru, je pense que... Oui, de Myriam Véro, présenté en 2019. Donc, elle a même remporté un prix pour ce film-là. Dans le long métrage Kwesipan. Sharon, vraiment, là, c'est une comédienne de talent incroyable. Elle va paraître dans la prochaine pièce de Giuseppe Manicanetti qui est présentée du 8 mars au 8 avril. Donc, notez ça à vos agendas, Manicanetti. Ça va être un super rendez-vous. C'est une pièce qui est à la source de l'œuvre Manicanetti de Naomi Fontaine. Donc, c'est ça, Sharon, elle prend la parole et puis c'est vraiment un long... On la suit dans ses réflexions de femme, comment elle a appris d'aimer au milieu du béton à la ville. Donc, c'est vraiment un rapport de confession intime. Et elle fait avec un sourire et un rire et même un jeu assez théâtral qui fait en sorte que tu dis, OK, mais est-ce que c'est un ton rieur qui se veut un peu sarcastique pour montrer à quel point... l'amour peut être dur, l'amour peut être froid. Comment aimer entre des craques de béton, tu sais? Donc, elle joue vraiment avec ce jeu-là. Et, ouais, donc vraiment entre le froid et le chaud, un je t'aime enfoui en dessous de l'oreiller. Donc, c'est la prise de parole de Sharon Fontaine Ishapato. Septième texte de Marie-Louise Bibiche-Mambou. Qui est interprétée, là, c'était la seule prise de parole qui n'était pas interprétée par l'autrice même, mais bien par Tatiana Zingabatao. Marie-Louise, en fait, elle est descendante des peuples bantous d'Afrique centrale. C'est une autrice dramaturge québécoise d'origine congolaise qui croit au pouvoir des arts de décoloniser les mentalités et les imaginaires. Tatiana... Elle, c'est une diplômée au Conservatoire d'art dramatique de Montréal et qui a également fondé le Théâtre de la Sentinelle. Alors, elle interprétait le texte de Marie-Louise. C'est un texte qui parle encore une fois de décoloniser l'amour, mais cette fois à travers le rythme de la musique. Donc, elle raconte qu'au Congo, du temps de ses grands-mères, les femmes choisissaient eux-mêmes leur homme et que même sa belle-mère et sa grand-mère... éduquait sexuellement les hommes. l'amour, c'était un tout. Puis que la drague, en fait, c'était... Puis là, je parle au passé. Mais la drague, comme elle nommait, c'est puissant. Ce que l'oreille entend, À travers la rumba congolaise, on sent le désir du corps d'explorer tout ce qui est organique, à travers la danse, la délicieuse musique, le rythme des paroles. Vraiment, on se transporte dans une espèce d'euphorie, de rythme. Et à travers son texte, on voit qu'elle est en quête de savoir à quel point elle pouvait être célébrée en tant que femme, puis que l'amour part par la danse pour elle. Et elle finit en disant « Je suis une hors-la-loi et je suis pudique » en même temps. Donc c'était super, vraiment... Très,
C'est une belle complicité, même que ça se présente comme une contradiction.
Oui, c'est ça, exact. Un spectacle tout en mots. Hein. Les mots étaient très puissants, très humains, vrai. Et on finit avec l'interprétation de Elisapie Isaac. Elisapie, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une autrice, compositrice, interprète Inuk. Originaire de Saluit au Nunavik, elle vit aujourd'hui à Montréal. Donc, elle représente la force, la beauté du Nord, un peu sauvage, un peu brute. D'ailleurs, on va voir écouter ses chansons tout à l'heure, mais elle nous a menés un peu à travers. Je ne sais pas si elle parlait d'elle. J'ose croire que oui, comme on le comprenait. Mais en fait, elle raconte le rêve d'une enfant à travers tous ses âges, donc de 5 ans à 21 ans. Ses aventures avec elle-même, avec la sexualité, avec sa culture Inuk, le départ de sa communauté à la grande ville quand elle a quitté son village pour Montréal. Donc, c'est très touchant. On apprend à connaître cette petite fille-là. On s'attache à ce personnage qui est elle, je crois. Puis... elle finit avec une chanson d'Air Rose, accompagnée par les musiciennes. Elle travaille sur un nouvel album, apparaître prochainement, Elisapie, et elle sera au MTLUS le 4 mars prochain. Donc, vraiment, regardez ce qu'elle fait, c'est super, vraiment beau, et j'ai très hâte d'entendre son nouvel album, puisque c'est depuis 2018 qu'elle n'a pas sorti quelque chose, donc ça va être un peu son retour. Alors, c'était un peu ce qui conclut ma perception de ce qu'a été Nichimus pour moi, comment je l'ai vécu. Sur le site de l'Espace Go, vous avez accès au carnet Nichimus si vous voulez apprendre davantage sur la pièce, sur les portraits de ces femmes-là, sur la symbolique des choses. C'est super bien fait, donc vous pouvez aller à l'Espace Go sur le site espacego.com. Et on explique et déconstruit les termes de l'amour à travers les époques dans les carnets. Vraiment, c'est super intéressant. De l'époque courtoise à postmoderne, de l'amour décolonial, de l'érotisme. Et donc voilà, la prochaine représentation à l'Espace Go, c'est le traitement de la nuit du 7 mars au 2 avril. Donc, vous pouvez aller suivre ça aussi. C'est une tragicomédie qui se traduit par le langage avec Anne-Marie Cadieu, un texte de Evelyne de la Chenelière. Donc,
Merci de nous présenter ça. Ouais. C'est assez complet. Puis la perspective des 8 interprètes semble très intéressante. Dommage que... Oui. Que ce soit la dernière représentation.
Oui, ça nous a vraiment donné envie. Et moi, ce que je retiens, c'est des femmes avec des parcours différents, très riches et très, très forts et très intéressants. Et dans l'expression, est tellement diverse, mais qui ne tombe jamais, d'après ce que j'ai entendu, qui ne tombe jamais dans la victimisation. Et c'est toujours en revendiquant leurs origines, leurs perceptions, avec une sensibilité avec beaucoup de force. Mm-hmm. Et ça en dit long sur... sur leur identité, sur leur personne. Et oui, ça nous a vraiment beaucoup donné énormément envie de voir ça. Et,
Je sais, c'est dommage que ce soit juste du 19 au 22 janvier, mais une autre pièce qui va être intéressante, comme je l'ai répété, c'est Mannequin Netiche. Si ce qu'on vous a raconté vous a interpellé, je vous incite à aller voir les œuvres de toutes ces femmes-là, en fait.
Oui.
Mais aussi les prochaines œuvres qui parlent justement des perspectives et réalités autochtones, comme Mannequin Netiche, qui sera présentée au Théâtre du CEP à partir du 8 mars. Donc, on va se laisser sur une petite deux chansons de Elisa Pierre, moi, que tu voulais...
Ouais, juste pour alimenter la discussion aussi, il y a un podcast, All My Relations Podcast, fait par des femmes autochtones, parlant des relations amoureuses, amicales, sexuelles. Et un de leurs émissions, appelée Decolonizing Sex, avec la chercheuse Kim Tolbert de l'Université d'Alberta, parle en fait de la polyamour critique. On parle de comment critiquer les relations normatives depuis la colonisation. Et ça touche un peu de la thématique, oui, que tu as présentée, Florence. Puis, c'est en anglais, mais très intéressant sur Spotify.
Donc, rappelle-moi le nom du podcast.
Oui, All My Relations Podcast. Et le titre de l'émission à écouter, c'est Decolonizing Sex.
Wow! Mais super, je vous invite à aller regarder ça.
Et donc, oui, on se laisse en musique.
On se laisse en musique sur Elisa P, qui était la dernière artiste. Donc, ça tombe bien. On termine l'émission sur Summertime et Danny Boy, deux chansons qu'elle a réalisé avec G.S. Williams sur son album 12 Circles, The Break, The Cast, sorti en octobre. Alors, on se voit la semaine prochaine à Dans les airs. Merci d'avoir été avec nous.
Appeal your tone I halole non hay lo pirotto atata tatsuito anana I'm